Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, premier sujet pour les commissaires ce matin, l'annonce hier par Québec de la mise en place d'un programme de bracelet anti-rapprochement pour faire en sorte que les femmes se sentent mieux protégées et empêcher des hommes qui sont condamnés en attente de procès de terroriser une ex-conjointe. Est-ce que tu penses, Nathalie, que les victimes vont être mieux être protégées?
Absolument, et je m'appuie sur l'Espagne qui, depuis 2009, déploie des bracelets de ce type. Et sachez qu'en Espagne, il n'y a aucune femme protégée par un bracelet anti-rapprochement qui a perdu la vie depuis 2009. Alors, c'est le moment de faire la vague. C'est une excellente nouvelle. Sortez les tambours, les trompettes, les pompons. Là, vraiment, la ministre de la Sécurité publique, hier, Geneviève Guilbeault, a parlé d'un moment historique. Elle a tout à fait raison. C'est une décision qu'on attendait, qui est arrivée peut-être, probablement plus tôt que ce qu'on espérait. Mais c'est une excellente nouvelle parce que c'est ce qu'on appelle un game changer dans notre société. Alors, on va être confronté à une nouvelle réalité. Les hommes vont devoir changer leur comportement. Les femmes vont bien sûr être plus rassurées. Alors, sachant qu'en 2015, et c'est la dernière donnée que j'ai trouvée officielle au Québec, il y a eu 19 142 cas de violence conjugale. On va protéger beaucoup de femmes, mais également beaucoup d'enfants, parce que malheureusement, trop souvent, il y a des victimes collatérales et ce sont les enfants qui écopent de la violence conjugale qu'on trouve dans trop de familles au Québec.
Luc? Ben moi aussi, immense enthousiasme. J'ai trouvé d'ailleurs qu'il sortait vraiment fort parce qu'il parle de 2300 personnes qui pourraient être sujettes au port d'un bracelet, alors qu'en Espagne, c'est 1300 pour une population de 40 millions, pas moins violente que la nôtre. Là. Donc, je ne sais pas s'ils vont vraiment arriver à donner ça. Parce que le problème du bracelet, évidemment, c'est que tu ne peux pas le mettre comme ça à n'importe qui en fonction des doutes. Il faut qu'il y ait eu un jugement en cours. Là. Ça peut être en civil ou au pénal, mais il y a un jugement en cours qui décide que tu vas porter le bracelet. Il y a toutes sortes de cas qui échappent à ça. Là. Par exemple, une épouse qui vit avec un conjoint violent, qui n'a pas d'antécédents, qu'elle n'a pas dénoncé, puis qu'à un moment donné passe à l'action. Il y en a eu beaucoup là, dans les 17 qu'on a eu qui échappent à ce genre de... qui sont dans ce genre de scénario-là et donc qui échappent au scénario du conjoint violent qui revient pour commettre son méfait. Mais il y en a aussi de l'autre catégorie. Là. Mais je veux juste dire qu'il faut distinguer les catégories. L'autre chose aussi, c'est que c'est un plan qui s'inscrit dans le cadre d'un plan plus général, plus global. Et là, c'est là que tu vois la bonne intention. Parce que c'est pas juste, on a trouvé une gugus, un gadget, puis on le met, puis on l'essaye. Non, ça vient compléter 223 millions de dollars de mesures contre la violence faite aux femmes. Entre autres, le tribunal spécialisé, la formation, les sommes supplémentaires qui ont été données pour les maisons d'accueil, etc. Donc, c'est vraiment un front de mesures qui va finir par avoir de l'impact.
Moi, Luc, le chiffre que j'ai entendu, c'est 500, le déploiement de 500 bracelets d'ici 3 ans. Bon, c'est sûr qu'il y a des questions qui se posent actuellement, là, mais je pense qu'il faut quand même prendre le temps de se réjouir. Par exemple, combien de temps va être appelé à porter, par exemple, un homme là, qui se voit imposer l'obligation de porter ce bracelet anti-rapprochement une fois qu'il a purgé sa peine? Bon, ce que je comprends en Espagne, c'est qu'une fois que tu as purgé ta peine, c'est la même chose en France en passant. Il le déploie depuis l'an dernier. Le bracelet est retiré. Alors,
Mme Guilbeault a dit tantôt que ça pouvait faire partie des conditions de libération conditionnelle. Alors, par exemple, tu dis, OK, tu purges le tiers de la sentence ou tout ça, tu vas être remis en liberté. Puis parmi les conditions, on t'impose le port de ce bracelet. Si tu veux pas, ben tu restes en dedans.
Ah, ben ça, c'est excellent. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais on comprend, Paul, que ça va prendre la collaboration des juges, des...
Oui, mais là, ça s'applique pour les décisions de la Cour du Québec. Là. C'est-à-dire qu'on comprend que, par exemple, quelqu'un serait condamné pour un crime violent à l'endroit d'une femme, puis est sentencé au fédéral, là, parce que c'est 2 ans et plus. C'est pas couvert, là.
Ben, c'est pas couvert, mais si le gars se retrouve en prison, je sais pas moi, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, c'est plus inquiétant lorsqu'il va sortir de prison.
Ben, c'est ça, mais c'est parce que ça relève pas de Québec, ça relève du fédéral. Fait que Mme Guilbeault disait tantôt qu'il y aurait des discussions, en tout cas...
Tout à fait.
Sur la question.
Puis on va apprendre aussi... On va apprendre aussi l'efficacité du truc, là, parce que les cas de violence conjugale augmentent plus on monte au nord du Québec, puis plus tu montes au nord, moins il y a de police aussi. Donc, l'idée, c'est que le bracelet déclenche automatiquement une alerte quand la personne qui la porte se rapproche de sa victime présupposée. Là, et elle porte un appareil qui fait qu'il rentre en contact avec l'appareil qui est sur le bracelet, puis quand tu es à 1 km, par exemple, ça se déclenche. Mais... un kilomètre en ville puis un kilomètre dans le Grand Nord, c'est pas la même affaire. Puis
mais t'as pas besoin de mettre dans le Grand Nord, Luc, le voir en Gaspésie, va sur la côte nord,
ben oui, c'est
va
ça.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un des peut-être pas critiques, mais c'est un des commentaires qu'on a formulé quant à c'est pas parfait, on s'entend, mais l'avancée est tellement significative parce que vous savez des fois le gouvernement adopte des mesures qui ont, je pense, qui font office davantage de symboles, mais dans ce cas-ci, on est vraiment au-delà des symboles. Moi, je suis très très heureuse de ça parce que imaginez le stress vécu par une femme qui se fait harceler par son ex-conjoint, par son conjoint et qu'elle a quitté. Il y a des cas toutes les semaines dans les médias parce qu'il y a les 18 féminicides auxquels, évidemment, on a été confrontés comme société. C'est une chose, mais il y a toutes ces milliers de femmes qui, à chaque année, souffrent. Et pour qui le fardeau, dans le fond, repose toujours sur leurs épaules. Luc, on en a déjà parlé, Paul. T'sais, c'est toi qui dois quitter la maison. C'est toi qui dois s'assurer que les enfants sont en sécurité. Ça devient extrêmement lourd. Alors, si on peut, avec le bracelet, diminuer l'anxiété, diminuer le stress et faire en sorte que les femmes soient moins hyper vigilantes, parce que ça crée ça aussi, là, un conjoint qui passe son temps à te harceler sur les réseaux sociaux ou qui surveille au travail, ça crée de l'hypervigilance. Alors,
la beauté aussi, c'est que tu as une preuve. Moi, j'ai vu des cas où des femmes appelaient le 911 en disant « ça fait 4 fois qu'ils passent devant la maison, il n'y a pas le droit », mais essaie de le prouver. Là, tu as une preuve de géolocalisation qui va te permettre de dire « OK, tu étais là à tel moment, puis bye, tu rentres dedans ».
Formidable. Un petit défaut là-dessus, là, j'espère que ça va se corriger en Espagne. Donc, il paraît que si le conjoint porte... l'appareil, il y a un appareil puis un bracelet. Puis si l'appareil et le bracelet sont trop éloignés l'un de l'autre, ça sonne chez la victime. Et oui. Ils s'amusent à faire ça pour lui faire peur en plein milieu de la nuit. Puis ils n'ont pas trouvé la solution technique encore pour régler le problème.
Ouais.
Oui, effectivement, je confirme. J'ai lu la même chose, effectivement. Comme quoi, rien n'est parfait. Mais la bonne nouvelle, c'est que là, le gouvernement va aller en appel d'offres pour trouver le fournisseur de la technologie. Mais il existe, la technologie. Peut-être que, Luc, au Québec, on sera plus brillant que les Espagnols, puis on trouvera le défaut.
Ils sont brillants, les Espagnols.
Ouais.
Au retour, Luc va devenir le jardinier de l'échangeur turco pour s'assurer de la croissance de ses pouces, c'est le cas de le dire, là, parce que c'est minuscule qu'on a installé. Vous allez comprendre ça tantôt.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Que commence donc avec cette forêt en devenir à l'échangeur turco.
Donc, écoute, il faut féliciter le ministère du Transport du Québec. Pour la première fois, fait un projet de compensation carbone. Donc, c'est-à-dire qu'il calcule le coût d'émission de gaz à effet de serre par le projet Turco, puis ils disent, ben, on va planter des arbres pour pallier à l'émission de carbone qu'on a faite. Et on décide de planter des arbres, mais tout est beau tant que tu n'as pas vu les arbres.
Le communiqué est parfait.
Ah ouais, c'est ça. Après, quand tu vois les arbres, tu dis, oh, OK, c'est correct, faudrait pas passer à tondeuse à gazon ici, il en resterait pas un, là. Mais, tu sais, le ministère, au moins, réalise la difficulté de rendre concret une mesure que les élus adorent faire. On va planter des arbres, attends une minute, toi. Premièrement, ils ont décrété que c'était 51 000 arbres qu'il fallait qu'ils plantent. Mais le calcul est particulier parce qu'ils ont dit 51 000 arbres qui absorbent du carbone pendant la durée de vie de l'arbre, c'est-à-dire 100 ans, ça va couvrir les gaz à effet de serre produits par la construction de Turco. Mais la prévisibilité d'une plantation sur 100 ans, c'est zéro, là. Les maladies, la mortalité d'arbres, c'est comme, voyons, première, ça n'a pas d'allure. Si tu avais voulu faire un vrai calcul, il fallait que tu dises, je plante des arbres pendant la durée de construction de l'ouvrage, équivalente à la construction de l'ouvrage. Donc, il aurait fallu que tu plantes 1 million d'arbres, pas 51 000, 1 million. Puis, ces arbres-là arrivés à maturité, après ça, auraient pu absorber le carbone aussi il y aurait d'abord absorbé le carbone de la construction de l'ouvrage, puis après ça, dans leur durée de vie, il aurait fini par absorber aussi la circulation des voitures. Puis l'autre affaire, c'est que, 100 ans, là, plante donc des cactus, parce que... c'est vrai.
Ça se peut qu'on fasse turco dans 75 ans.
Bon, en plus, oui, non, ben, il y a toutes sortes de choses qui marchent pas. L'autre, là, un autre, avant de te laisser la parole, Nathalie, un autre truc c'est amusant, c'est que quand tu dis je vais planter des arbres, ça a l'air facile. Quand tu veux vraiment planter des arbres, mais là, il faut que tu trouves une bande de terrain avec un écart par rapport à l'autoroute assez grand. Puis il faut pas que tu fasses juste une rangée d'arbres parce que le vent va les emporter, le vent puis le sel va les emporter. Il faut que tu aies une certaine largeur, un certain nombre de rangées d'arbres pour que ça fonctionne. Puis en plus, ça va devenir un petit couvert de biodiversité parce qu'il y a des animaux qui vont pouvoir s'insérer là. Alors que sur une rangée d'arbres linéaire, tu peux pas avoir aucune biodiversité ni rien, puis ils vont mourir. Et là, tu te dis, ouais, mais on les plante. Où ce genre de terrain-là existe? Ah, il y en a partout. Ah ouais, quand tu commences à chercher, ils en ont trouvé au Mont-Saint-Hilaire. Après ça, il a fallu qu'ils trouvent 18 espaces, que ça monte jusqu'en Mauricie pour être capable de trouver ces terrains-là. Alors, ça, c'est pour 51 000 arbres. Fait que les 2 milliards d'arbres de Trudeau, là, puis les arbres pour le troisième lien, là, bonjour, bonjour.
Mais le fameux calcul auquel tu réfères, Luc, là, du ministère des Transports, n'a pas été validé par aucun expert, selon l'étude que j'ai fait. En fait, je pense qu'il faut confesser un petit péché, Luc, auprès de Paul, toi et moi, ce matin. On a raillé la semaine dernière le concept de carboneutralité. Pourtant, c'est un concept là, qui fait l'unanimité ou à peu près sur la planète pour ce qui est de l'atteinte du fait de neutraliser les émissions de GES qu'on émet comme société. Ce concept-là, en soi, je pense qu'on peut pas... Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Non, Luc, tu es d'accord avec ça?
Oui,
parfait. Le problème, c'est le moyen pour y arriver. Et là, évidemment, on a bien ri en voyant cette manchette du Journal de Montréal, 100 ans pour atteindre la carboneutralité des changeurs turcos. Mais je pense que la nouvelle, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que j'ai découvert dans mes recherches que les réfections à l'échangeur, pas à l'échangeur, mais le tunnel Louis-Polyte-La Fontaine, le consortium qui travaille actuellement sur le projet, va adopter des mesures semblables à celles qui étaient adoptées par le ministère des Transports pour l'échangeur turco. En fait, ils ont déjà évalué de janvier à juillet 2021 la quantité de CO2 qui a été émis et ça, ils disent que ça représente 8,3 millions de kilomètres parcourus. Alors là, ils sont en train de modifier leur façon de se comporter sur le chantier. Par exemple, on va privilégier une flotte de véhicules hybrides, véhicules électriques. On va tenter de valoriser 80 % des matières résiduelles sur le terrain. On va implanter une politique de coupe moteur pour éviter effectivement le genre de débordement. Ça te fait sourire, Luc, mais moi, vois...
Je ris en pensant à... Mais non, c'est correct. Là.
Ce que je vois derrière cette nouvelle, derrière le concept de la carboneutralité, c'est des promoteurs, des gouvernements qui tentent de changer leur façon de construire des grandes infrastructures. Par exemple, on parle des changeurs turcos, on parle de l'éventuel troisième lien, on parle de réflexion du tunnel Hippolyte-La Fontaine.
Mais Nathalie, moi, là, si tu meurs un jour, là, je peux-tu aider ta famille à trouver l'épitaphe? Ça va pas. Elle était enthousiaste.
J'ai pas dit que je suis enthousiaste.
Elle était enthousiaste.
Non, mais je voulais confesser mon péché quelques instants parce que j'ai contribué avec toi à railler la carboneutralité liée au troisième lien. Mais tu vois, plus je regarde ça, je me dis, OK, c'est quoi nos options, Luc, pour tenter de minimiser l'impact lié aux émissions de GES? On va acheter des crédits carbone, on va planter des arbres, on va utiliser plus de véhicules électriques sur les grands chantiers de construction. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?
Oui, mais regarde, c'est parce que tout ça, ça a déjà été fait dans le passé, c'était le fameux plan de développement durable. Dans les entreprises, dans les années 90, tout le monde 2000, tout le monde avait un plan de développement durable. On va avoir du gazon, on va avoir du savon biologique, il y aura plus de papier recyclé, on va pousser du gazon sur nos casquettes. Ouais, mais c'est parce que si pendant ce temps-là, tout le monde a un véhicule de plus en plus gros, tous ces efforts-là, boum, poubelle, ça sert à rien. C'est tout le temps la question de l'adéquation problème, solution. Ici, on l'a vu, là. Regarde, 51 milliards.
C'est quoi ta solution? C'est qu'on se met tout à rouler. Ça revient toujours à ça, Luc, dans ta vision des choses. C'est comme, oui, oui, les gros véhicules, c'est une chose, mais tantôt, on va tous rouler en véhicule électrique ou à peu près, là.
Mais non, mais j'arrête pas de te le dire que ça changera rien, Nathalie, ou à peu près rien. Au Québec, ça va changer un peu, et très peu, là. Parce que, pour qu'un véhicule électrique remplace de façon efficace un véhicule à essence, il faut qu'il roule beaucoup. Puisque
ben, donne-moi-la ta solution, mon cher, partage-nous ton savoir et ta vision des choses.
J'en ai un million de solutions. Alors, premièrement, il faut arrêter l'étalement urbain. Première chose. Deuxièmement, il faut réduire la taille des véhicules, même les véhicules électriques. Il faut que ce soit des petits véhicules. Troisièmement, il faut arrêter la consommation. Quatrièmement, il faut arrêter les voyages. Cinquièmement, il faut réduire le nombre de kilomètres parcourus. Sixièmement, il faut sauver la biodiversité. Septièmement, il faut protéger nos rives d'eau et nos milieux humides, nos ruisseaux, nos rivières, aux fleuves. Il faut acheter des terrains en rive, il faut planter en rive pour empêcher l'érosion. Veux-tu que je continue pendant tout l'après-midi? Je
mais Luc, c'est parce qu'on fait tout ça déjà.
Non,
est-ce qu'on peut faire plus?
Est-ce qu'on peut faire plus?
La réponse, c'est regarde, oui, absolument, regarde, assurément.
Oui, mais regarde, il manque d'infirmières dans les hôpitaux. Là. Si le premier ministre est arrivé et avait dit « J'ai 25 solutions pour régler le problème. Première solution, on va en engager une nouvelle infirmière dans chaque région qui commence par elle. Ben, tu dis, on n'ira pas loin avec cette solution-là. Elle est bonne, la solution, on engage une, là, mais
bon,
elle n'est pas
attends, mais je vais prendre ton exemple du transport aérien. Demain matin, on dit, il faut cesser le voyage. Là, tu as l'industrie aérienne là, qui va cracher sans jeu de mots, évidemment. Là. Et là, tu vas te retrouver avec des dizaines de milliers de personnes sans emploi demain matin. Ça va être le chaos dans l'industrie. Bon, alors, il faut faire face à ça. Il faut préparer ce virage-là,
ben,
mon cher.
C'est ça, le Green Deal.
C'est pour ça qu'on parle de transition énergétique, de transition écologique.
Mais Nathalie, c'est parce qu'une question de temps. C'est parce que la transition, ça se fait sur 100 ans comme pour Turcot. C'est pour ça que je te dis, plante donc des cactus. Parce que dans 100 ans, le réchauffement de la planète va être tel que tes problèmes vont être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus graves que les arbres en bordure d'autoroute. Là.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Luc. Il faut accélérer les choses, mais tu peux pas du jour au lendemain claquer des doigts et dire,
non, je dis pas
voici,
ça.
On fait le virage, c'est terminé.
Non.
Moi, je voyage plus, c'est fini.
Ben regarde, on a l'exemple. T'as Québec solidaire qui dit qu'il faut couper 65% les émissions d'ici 2030.
Ben oui, toi.
T'avais de l'autre bord, la CAQ qui dit 37,5% d'ici 2030. Ben quelque part entre les deux, là, 40%, 45%, c'est ce que propose Mme Anglade. Ben et le Parti québécois. Donc c'est là, tu sais, il faut pas aller dans l'insignifiant. Il faut aller dans le signifiant.
OK, parfait. Tu vas dans le signifiant, mais dis-moi comment tu vas arriver à atteindre ton signifiant. Parce
OK, on va faire une chronique juste là-dessus.
De... Oui, parce que 40%
bon,
de
prenez-vous des notes là-dessus, là.
Non, mais
on veut des mesures concrètes. Et
voilà.
Luc était prêt à prendre la relève jusqu'à 2h cet après-midi pour son plan de match. Merci, on vous retrouve demain.
23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.